Yeah.
Mix it up.
Attention, Gouavou, c'est un quoi jouer qui va donner pour Thiago dans la frappe du Lino. La quatrième but. La quatrième but.
Monaco avec une saison pénible l'année dernière.
Spécial.
Ricardo qui partait encore un petit peu dans l'inconnu avec un recrutement pas très prestigieux.
On a eu des actions vraiment intéressantes sans être en danger. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on n'a pas frappé en quelque sorte, on n'a pas réussi à faire une frappe.
Que ça a été beaucoup plus prestigieux du côté du Paris Saint-Germain.
Ça peut être la bonne surprise de la saison, ce groupe, cette équipe.
Peut-être c'était qu'un bon match. Allez, doucement.
Après, il y a toujours les deux présidents, Pipo et Mario, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font vraiment pour aider le club. Laurent Rousset qui est toujours à la masse concernant ses choix.
Mais si on a compris un peu sur le coup que ce gars-là, on avait tout simplement rien à foutre du foot. On peut pas se permettre d'avoir un entraîneur aussi mauvais.
Le championnat de France, la journée qui vient de se passer, une émission qui n'a toujours pas de nom. On vous attend pour un peu qualifier. Hein. Vous pouvez nous aider à trouver un nom pour l'émission. Hein. Les incultes, les ignares, si vous voulez. Toutes les suggestions sont acceptées. Avec nous ce soir, on a un petit nouveau, Sébastien.
Salut.
On a bien évidemment Dan. On a Dan qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure. On a Fap. Fap qui va tenir le fil rouge de la Ligue 2, Lens-Sedan ce soir, pour nos auditeurs aussi qui nous écoutent pour ça. On a aussi Hugo avec nous.
Ah, bonsoir à tous.
On a Billy. Et on a Valentin.
Salut à tous.
Donc ce soir on va parler en particulier de Nantes. Ça sera notre premier sujet avec Bastien. Nantes qui remonte bien après sa victoire extrêmement importante au Havre. On parlera aussi des résultats un petit peu bizarres. On a vu ce week-end avec des équipes qui n'arrivent pas à suivre et à rejoindre Lyon, alors que Lyon a réellement buté sur sa pelouse contre Valenciennes. On parlera aussi à la fin de ce que vous aimez dans les émissions de foot en France. On a arrêté cette année avec le calvaire France de foot, mais on a d'autres émissions qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Vous donnerez vos impressions. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le topic de la radio dans Soccers. Vos réactions seront lues. Et ben sans tarder, on va commencer avec toi, Bastien, et le FCNA qui sort la tête de l'eau après un début de saison très difficile. Donc si tu peux nous présenter un petit peu le cas de Nantes en ce début de saison, on t'écoute.
Oui, Nantes qui gagne 2-0 au Havre grâce à début de Djordjevic et de David De Freitas. Un début de saison assez calamiteux à Nantes, hein, parce que on commence très très mal, on remonte, beaucoup d'histoires en interne avec Valdemar Quitta qui limoge Michel Derzakarian au bout de 3 matchs. Je pense que ça vous a quand même assez marqué. Je crois que c'est une première dans l'histoire de la L1. Il voulait virer cet homme dès la saison de Ligue 2. Hein. Il n'appréciait pas le jeu déployé par les joueurs. Donc il a attendu la première occasion. Malheureusement, ça fout toute la préparation en l'air. Puis au préalable, un recrutement assez conséquent à 8 joueurs. Il y a Michael Gravgaard, international danois. Il jouait assez régulièrement la Ligue des Champions avec Copenhague. Bon, son début de saison peut être résumé par sa nomination au Ballon de Plomb. Tout comme Doug Lau, je pense que vous le connaissez. Hein. Assez drôle comme joueur, pareil, nominé au Ballon de Plomb. Il n'a jamais joué leur jeu puisqu'il vient de Détroit brésilienne.
C'est vrai que Doug Lau, c'est vraiment une perle de la Ligue 1 en ce début de saison.
Ah, c'est. Il a, d'après la presse nantaise, il a été recruté sur des vidéos par, sur YouTube. Ce qui est assez, assez drôle, hein.
Oh là là, on verra vraiment n'importe quoi. Le mec, il a peut-être fait 10 jongles sur YouTube. Alors, ça a plu à sa président, à Kita, et voilà, il l'a recruté.
Oh, ben. Si c'est comme ça, c'est assez, assez embêtant pour nous, quand même. Il y a Ibrahim Toll, ancien joueur de Sochaux. Arrière droit qui vient de d'Écosse. Bon, et il s'était fait un peu oublier. Hein.
Justement, oui. Pour le recrutement au niveau de Klasnić, est-ce que tu pourrais confirmer qu'il est aussi, ce que je vais t'avouer, je suis pas réellement les matchs de Nantes. Est-ce que tu pourrais me confirmer qu'il est aussi mauvais qu'on nous le laisse entendre?
Le cas Klasnić, oui. Bon, c'est un cas assez spécial. Quand on suit pas Nantes, on peut pas trop s'y attarder. Klasnić, aucun but marqué en plus de 10 matchs, une passe décisive. Il joue 60 minutes par match. Au Werder, il faut aussi avouer qu'il marquait pas énormément, mais il est assez mauvais. Il rate très régulièrement ses contrôles, des appels très approximatifs. Hein. On se demande des fois à quoi ça sert. Puis les frappes, il les cadre jamais. Bon, depuis 2-3 matchs. Bob l'a remis avec un second attaquant, ce qui lui permet d'être un peu plus libéré, d'avoir plus d'espace, donc il se montre un peu plus, mais bon. Klasnić, c'est loin d'être ce qu'on attendait.
Ouais, et c'est assez étonnant, parce que je pensais justement que le seul truc qui manquait après la saison dernière de Nantes que j'avais suivi en Ligue 2, c'était vraiment un finisseur, parce que au milieu de terrain, c'était du très solide. Pourquoi, est-ce que t'aurais des petites informations, pourquoi vous avez perdu Chérini à l'intersaison?
Bah, Chérini, bah, l'un des meilleurs joueurs nantais, hein.
Ça, oui, c'est pour ça que ça m'avait vraiment étonné de le voir partir.
Oui, oui, bah, simplement parce que Kita a voulu recruter Endo. Donc, un milieu de terrain très solide comme Chérini, qui était à Sochaux la saison dernière. Bon, ce qu'il a, en plus de Chérini, je pense que c'est quelques centimètres. Après, dans son jeu, je pense qu'il est même moins bon que Chérini la saison dernière. Il est parti, donc, parce que la direction ne comptait pas sur lui. Kita est quelqu'un qui adore les noms. Bon, après, le talent, on sait pas. Il adore les noms, et il a recruté Endo, et Chérini est à Strasbourg, et cartonne assez bien, comme la saison dernière avec Nantes.
Mais bon. Ah, c'est vrai que, au niveau des noms, quand il avait, tapé dans Klasnić, c'était quand même assez impressionnant. Hein. Klasnić qui a fait, si mes souvenirs sont bons, 7 saisons au Werder de Brême. Il a inscrit, je ne sais plus exactement, mais il avait inscrit pas loin d'une quarantaine de buts en 7 saisons à Brême. Donc,
oui, 75.
Comment?
75.
Ah, 75, ah oui, j'étais loin du compte. Donc c'était vraiment quand même une valeur sûre. Il a eu un problème au niveau des reins, il me semble, ce joueur. Il revient d'une très grave opération.
Il a subi une grave du rein. Ouais. Et il a attendu, sauf 9 mois après, il me semble qu'il était à nouveau sur le terrain. Bon, donc c'est quand même une sacrée opération. Ça a été quand même très dur pour eux. Pour revenir, ça doit être aussi un peu plus dur de terrain pour lui. Mais bon, c'est clairement pas une excuse. On a vu à l'Euro qu'il était peut-être pas excellent transcendant, mais il était pas mauvais. Il apportait pas mal à son équipe la Croatie. Après, il arrive à Nantes dans un championnat, dans une équipe qu'il connaît même pas de nom, peut-être plus de nom. C'est clair que pour s'adapter, c'est pas le mieux, mais il a pas d'excuse. C'est quand même un joueur dont le talent est quand même plus ou moins reconnu un peu partout en Europe. Vu sa renommée, il doit faire mieux. Malheureusement, c'est pas le buteur ou l'attaquant dont Nantes devait attendre.
Ouais. Ben alors avant qu'on continue sur le sujet Nantes, on a Adrien qui nous a rejoint ce soir pour compléter un peu notre équipe. Salut Adrien.
Bonsoir à tous.
Pour en revenir à toi Bastien et aux Canaries, il y avait une petite question de Fab qu'on a retrouvé après quelques petits problèmes techniques.
Oui, bonsoir, et je voulais demander si Klasnić, pour toi, c'était plus un problème de niveau ou si c'était plus un problème d'adaptation au FC Nantes vu son opération, tout ça, on peut remettre son mauvais début de saison par rapport à ça, ou si c'est clairement, ou s'il y a clairement un autre problème au sein du groupe.
Au début, c'était dit du côté de Nantes que c'était surtout un problème physique parce qu'il n'avait pas fait la préparation, c'est ça, tu me contrediras pas, Bastien.
Oui, c'est ça, Klasnić, comme l'a dit, je sais plus son nom. celui qui a parlé avant, c'est quelqu'un qui a fait un bon euro. Helvetia, voilà. qui a fait un bon euro, donc je pense pas que c'est son talent qui est à remettre en question. En revanche, je pense que c'est sa motivation au début. Je me demande s'il a pas pris de haut un petit peu ses coéquipiers. Puis il y a un peu de tout. Il y a aussi l'équipe dans laquelle il joue. Hein. C'est Nantes, c'est pas le Verder. Il y a pas Diego derrière. Hein. On peut dire un nom. Il y a Capou. Je sais pas si vous le connaissez.
Celui c'est Maréval qui a mis un but exceptionnel contre Marseille.
Là. Maréval. Oui, voilà. Pour lui, il a mis un but comme ça, il n'en mettra pas deux dans sa vie.
Hein. oui, Capou.
Il joue à Saint-Étienne, non? Son frère joue à Saint-Étienne.
À Toulouse. Non.
À Toulouse.
Voilà. Donc. Déjà, il a pas les ballons, donc il aimera avoir. Au Verder aussi, il jouait avec Klose à côté de lui. Donc là, il joue tout seul. C'est un attaquant qui à la base libère les espaces pour ses coéquipiers. C'est surtout un passeur, c'est pas un finisseur.
Donc là, voilà, tout à fait. Faut savoir que Klasnić, c'est pas le numéro 9, le buteur. C'est plutôt un gars qui va tourner autour de l'attaquant de pointe. C'est pas un joueur que tu vas mettre en numéro 9 dans un système un attaquant. Lui, c'est plutôt le genre de joueur qui va tourner autour d'un attaquant, d'un véritable attaquant. C'est plus ce qu'on appelle un second attaquant.
Voilà, c'est ça. Donc tout seul devant, il a rien fait. Et donc contre le Havre, il avait Djordjevic avec lui, un finisseur. Il a fait un match globalement bon, hein, jusqu'à sa sortie à la 60e minute. Il a cherché des espaces, il a fait des très bonnes passes, il était très impliqué. Un bon classique, mais très loin de son niveau Verder.
Okay. Pour finir sur Klasnić, une petite réaction d'Hugo.
C'est pas que sur Klasnić, c'est sur les grands joueurs en général qui viennent en Ligue 1. T'as les trois quarts qui s'échouent, qui se ratent complètement. Je sais pas, question en Ligue 1. Si t'es un bon joueur et tu viens en France, c'est presque obligé que tu rates et ça commence à devenir un peu embêtant pour nous, quoi.
Bah justement, oui, vu qu'on se plaint, il y a vraiment une plainte de la part de l'ensemble du football français qu'il n'y a pas assez de grands joueurs en France. Tu confirmeras un peu les propos d'Hugo, Valé?
Ouais, en fait, je sais pas, moi, j'ai l'impression que Klasnić est venu se prendre une pré-retraite dorée en Ligue 1, quoi. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai.
Dorée, si tu peux appeler ça?
Oui, non, bien sûr. Enfin, je sais pas quel est le budget de Kita, je sais pas s'il a voulu faire un petit caprice en prenant un joueur qu'il aimait bien, quoi. Moi, je sais pas, c'est une question de motivation, un peu comme Kezman, bon, même s'il joue pas, il paraît qu'il joue un peu moins et tout, etc. C'est des joueurs qui ont évolué, qui ont fait la Champions League, qui ont évolué dans des grandes équipes, etc. Puis qui arrivent en Ligue 1, bon, un peu triste ou net et tout, et qu'on va dire qu'ils vont pas tout donner à 100%. Hein. Moi, je pense que ça vient de là aussi le problème, personnellement.
Ok. Au niveau du recrutement, Bastien, tu m'arrêteras si je me trompe, mais je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, parle-nous un petit peu du début de saison plus que difficile de Nantes dès les premières journées.
Oui, trois journées, donc un match nul de défaite, bon ça c'est avant, du moins c'est la période où Derzakarian était entraîneur, ensuite Bob arrive. les débuts au Parc face à Paris, bon, se douter qu'il ferait pas grand chose, il perd. Depuis, les stats sont assez assez moyennes, hein, voire assez mauvaises. C'est attendez deux secondes. Je vais tourner. Voilà, c'est 4 victoires, 2 nuls et 6 défaites.
Donc ça c'est soit l'un soit l'autre là, c'est vraiment
c'est un parcours de relégable en quelque sorte, du moins de d'équipe qui joue le maintien pour être plus exact.
Ouais, qui est un petit peu à chaque fois au bord de la rupture à chaque match, quoi. Elle peut basculer d'un sens comme dans l'autre. Je me rappelle pour le premier match de Beaube, j'avais pas trouvé une équipe fondamentalement mauvaise, hein, de Nantes. Paris avait mérité sa victoire, mais en seconde période, j'avais vu vraiment une équipe nantaise qui avait réussi à jouer sur les défauts de Paris, qui reculait vraiment après avoir inscrit l'ouverture du score. Et moi, j'avais trouvé plutôt des débuts de d'Eli Beaube pas encourageants. Il y a un but qui va nous commenter Fab.
Ah oui, bon. Oui.
L'information vient de m'arriver. Un but de Losemi Caraboué, excusez-moi. Transfuge de Lyon. J'ai confondu avec Caboret de Marseillais. Donc but de Losemi Caraboué, 1-0 pour Sedan à l'extérieur contre Lens.
Très très belle opération pour l'instant qui est en train de réaliser les Sedanais, et surtout tu continues à nous tenir au courant au cas où il y aurait des choses qui se passent du côté des ch'tis dans le nord. Adrien, il y avait une petite réaction sur le PSG Nantes, je présume.
Pas forcément, par rapport à PSG Nantes, c'était
t'aurais pu faire comme
pour PSG Nantes, c'est vrai que l'équipe de Nantes m'avait plutôt impressionné. Ils n'avaient pas vraiment un parcours de relégable. On les avait rencontrés, ils avaient plutôt bien joué. Mais c'était par rapport au nombre de victoires de Nantes. Je voyais ce matin dans l'équipe que parmi leurs 4 victoires, ils en ont fait 3 face à des concurrents directs pour la relégation. Et donc c'est un peu à l'air que c'est des victoires qui gagnent face à des clubs qui sont un peu à leur niveau, sans être méchant, non?
Bastien?
Oui, bien sûr. C'est heureusement si on veut se maintenir, mais quand on voit certains matchs face à Toulouse ou Nice, où le FC Nantes domine largement Toulouse et concède le match nul, et où à Nice, ils montrent de bonnes choses et où ils perdent sur 2 erreurs défensives, ça, c'est rageant, surtout quand on voit les classements de Toulouse et Nice. Après, les 4 victoires, elles sont contre des concurrents directs, tant mieux, c'est vrai. Mais je pense qu'on aurait pu récupérer des points ailleurs.
Ouais, donc on a sur le topic de la radio, on a Tinos, un supporter nantais aussi, qui réagit par rapport à Klasnitch et qui nous dit que Klasnitch semble avoir un manque physique, mais je trouve aussi qu'il manque d'envie. Il paraît nonchalant des fois, après sa décharge, il y a aussi le fait que le schéma tactique ne lui sert pas propice, et il a Capou et Douglao dans son équipe, c'est pas toujours facile. Il faut associer Edgar Devich ou Gousset. Donc ça suit un peu ta ligne, la même direction que t'as pris, Bastien. Donc ouais, c'est clair qu'on distingue un manque physique chez lui, mais surtout ce manque d'envie, d'ambition, en arrivant à Nantes.
Ouais. Et à moins que non, je pense que sur le cas classique, j'avais bien compris. J'avais une petite question qui m'a traversé la tête. Est-ce que pourtant Nantes est quand même reconnu pour être un des meilleurs centres de formation de France. Je trouve qu'on ne voit plus ces dernières années. Ou alors, est-ce que tu pourrais m'en citer des joueurs qui, pour toi, tu penses qui pourraient réaliser quelque chose de grand? Et qui sont sortis du centre de formation au cours de ces dernières années?
Le centre de formation a été un peu tué par les anciens dirigeants, c'est-à-dire Grippon et Roussillon, hein, que les générations actuelles n'ont pas de très très bons joueurs. Le dernier en date qui a vraiment énormément percé, c'est Toulalan. Donc ouais. Voilà. D'accord. Depuis, il y a eu Payet, il y a eu Il y a eu vainqueur qui est pas mal, mais bon, à Nantes, on ne fait pas jouer les jeunes, donc forcément, bah, il y en a pas qui vont ressortir du lot. Hein.
C'est quand même assez bizarre pour un centre de formation quand même qui est assez reconnu avec celui de Rennes ou celui d'Auxerre. C'est dommage de faire un petit peu une croix dessus avec la nouvelle politique actuelle, avec la nouvelle politique actuelle du club. Vas-y, je te laisse continuer, Bastien.
Oui, concernant la formation, de toute façon, donc les dernières générations étaient, pour être assez clair, elles étaient assez mauvaises. Donc forcément, il y avait pas de jeunes qui allaient ressortir. Mais les prochaines, on a la CFA2, donc qui est pas mal, qui est leader de son groupe. On a les 18 ans qui sont deuxièmes derrière Bordeaux à 2 points. Et il y a les 16 ans qui sont leaders de leur groupe. Donc qui sait, peut-être.
Ouais.
Des futurs jeunes nantais qui vont arriver.
Des belles choses pour l'avenir, on ne sait pas. Hugo, une petite réaction aussi sur la jeunesse nantaise.
Voilà, bah je trouve aussi que des fois il y a du gâchis dans le centre de formation, puisque par exemple il y a un joueur qui s'appelle Vincent Laban qui joue à Famagouste et qui réussit plutôt pas mal là-bas. Vous allez me dire c'est le championnat chypriote, c'est pitoyable, c'est rien, c'est que des plots. Mais bon, en Ligue des Champions, il fait quand même des performances assez intéressantes. Donc des fois, je me demande pas s'il y a vraiment un petit peu de gâchis dans ce centre de formation.
Tu avais la connaissance de ce joueur-là, Bastien ?
Oui, bien sûr. Là-bas, il y a eu un mini feuilleton avec lui lors de l'époque Roussillon-Gripon. Les jeunes étaient assez sous-estimés à l'époque, donc il est parti comme pas mal de Nantais. Il y a Samaritano qui est à Vannes en ce moment, qui est assez plaisant à voir. C'est du gâchis.
Qui voilà, fait rare champion du monde, champion d'Europe des moins de 19 ans avec la génération des Lloris et je ne sais plus. Il me semble qu'il y a Lloris dans cette génération. Il devait avoir aussi Abi Belaïd qui joue maintenant à Francfort. Il me semble qu'il fait partie de cette équipe et qui a, je dirais pas tombé bien bas, mais qui n'est pas au niveau de ses coéquipiers de sélection d'alors.
Ok, Fap.
Oui, donc je voudrais demander à El Nanté ce qu'il pensait de Vincent Briand, qui est maintenant gardien remplaçant au CSC dans Ardennes, et aussi de Milos Dimitrievic, qui était pourtant un gros espoir, à ce que j'avais entendu dire, comme quoi il remplacerait, qu'il pouvait jouer milieu offensif ou plutôt relayeur. Et je sais pas ce qu'il est devenu fondamentalement, Dimitrievic, donc j'aimerais bien un peu plus de précision sur un joueur qui était pas trop mauvais.
Oui, bah pour commencer par Briand, il avait joué en Ligue 1 avec Nantes contre Marseille notamment. C'est un gardien qui était assez faible lors de ses prestations. Moi, personnellement, j'ai jamais cru en lui, donc son départ m'a pas énormément touché. Par contre, Dimitrievic, il y a beaucoup de Nantais qui sont d'accord pour dire que c'était un grand espoir. Il a pas joué, pourquoi ? Bonne question. Mais en tout cas, à chaque prestation qu'il faisait, il apportait de la vitesse au jeu, des espaces. Il crée ce jeu ce qui manque à Nantes actuellement. Et donc maintenant, il est remplaçant en Grenoble. Voilà.
Ok. Pour finir sur ce cas-là, peut-être, Billy, une réaction.
Ouais, je voulais m'adresser à Bastiano. Je sais pas depuis quand il supporte le FC Nantes, mais en tout cas c'est une équipe en France, ça a toujours été mon équipe en France, et j'ai connu l'époque de 95, de 2001, tout ça, et on a tous vu que c'était un gros gâchis, et en France tout le monde est d'accord pour dire que Nantes est patrimoine du foot français, je dirais, une des fiertés du français, et je sais pas, est-ce que au fond de toi t'es pas énervé, je veux dire, Non, t'es de voir tout ce gâchis depuis ces dernières années, de voir des joueurs farfelus arriver au club comme ça, chaque année, qu'il n'y a rien qui change depuis 3-4 ans. Ou alors, ce qui était plutôt fataliste, tu te dis, c'est ce qui t'a là qui va ruiner le club, c'est comme ça qu'on peut rien y faire.
Moi, je suis très très nostalgique des années 95, où quand on se battait avec Saint-Etienne. Bon, j'étais pas né, mais je me suis renseigné sur ça. Donc bien sûr, le jeu à la nantaise, les valeurs du FC Nantes, c'est un club familial où tout le monde arrivait, les joueurs parlaient à la presse, tout ça. Oui, bien, maintenant c'est un club banal, qui s'inspire des autres. on reconnaît plus notre FC Nantes. Oui, oui, il y a énormément de gâchis. Et non, on n'accepte pas. Non, on n'accepte pas du tout. Non.
Ouais, c'est vrai que comment faut peut-être arrêter de se voiler. On entend encore souvent dès l'instant qu'on voit une série de trois passes du côté de la Beaujoire, on entend le jeu à la nantaise. Mais comme tu le dis, c'est fini cette époque-là. Et Nantes s'est un peu fondu dans la masse avec cette espèce comment d'irrespect qu'on peut voir des joueurs envers les journalistes ou envers les supporters, un irrespect qu'on peut observer dans tous les clubs, hein, pas forcément à Nantes. C'est vrai qu'avant on pouvait observer, comme tu disais, un club très familial où il y avait vraiment une ambiance et une homogénéité autour du club, et on l'a perdu du côté nantais, et c'est dommage. Alors je suis désolé, c'est intéressant, on va activer un petit peu parce que notre temps est un petit peu limité, et te demander un petit peu ton avis toi sur le match quand même qui fait un peu l'objet de notre débat, le match donc de samedi et votre victoire 2-0 contre le Havre. Qu'est-ce que t'en penses? Mérité, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Est-ce que tu penses que ça peut conditionner la suite de la saison, parce qu'on entend sur les médias, sur les radios, bon je dis pas qu'ils ont raison, mais on les entend comme quoi ce match pourrait être le déclic et voir le match qui pourrait carrément sauver Nantes de la relégation.
Bon, la victoire est méritée, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il faut vraiment pas s'emballer. Le déclic, la presse l'avait annoncé après Saint-Etienne. Franchement, je pense qu'il faut pas s'emballer. C'est une victoire méritée, ça concrétise les progrès qui étaient présents avant, qui avaient été effectués dans le jeu, dans l'envie surtout. C'est quand même ce qui nous intéressait le plus. Mérité parce qu'il y a une solidité défensive qu'on n'avait pas vue à Nantes depuis pas mal de temps. Et après, l'efficacité devant, ça fait plaisir, oui, puisque on a trois occasions nettes, on en met deux. Contre Nancy, on en a sept, on n'en met pas une, on perd 1-0. Donc oui, c'est bien, mais je pense qu'il faut pas s'emballer. Hein. Le déclic, on déjà verra la performance qu'ils feront face à Lyon. Et ensuite, on pourra voir.
Ouais, c'est vrai que ça va être un gros match du côté de Lyon. On a une petite réaction sur une autre recrue, oui, qu'on n'a pas citée, c'est vrai, d'Adrien.
Ouais, je voulais poser comme question quelles étaient les performances de Jérôme Alonso en tant que supporter parisien. On a beaucoup regretté son départ, malheureusement, il est parti du côté de Nantes. J'avais vu son match quand j'étais au Parc des Princes face à Nantes. Il n'avait pas eu grand chose à faire, et je voulais savoir quelles étaient ses prestations actuellement, s'il apportait un petit plus au sein du vestiaire, son expérience,
sa bonne humeur.
Voilà.
Alonso, c'est vraiment notre coup de cœur cette saison, hein. C'est inévitable. Déjà, il est excellent en tant que gardien. Les buts, il n'y en a aucun qui est pour lui. Il nous a sorti de très beaux arrêts, et le vestiaire, bon. Sans lui, je me demande comment serait notre vestiaire. Il apporte une joie, de l'ambiance. Bon, tu le connais, bah c'est pareil. C'est pareil à Nantes. Il a tout le temps le sourire.
Et c'est vrai que ce gars-là ferait le bonheur de beaucoup de clubs, comme tu dis, au niveau de l'ambiance. C'est vraiment, ça me déçoit vraiment quand on voit comment il a été jeté du côté de Paris, un petit peu sous la pression de Landreau et sous la pression surtout de Le Guen qui en voulait plus. De Landreau, comme ça lui laissait le chemin libre, parce qu'évidemment maintenant c'est Edel derrière lui, même si je ne critique pas parce qu'on ne le connaît pas à part lors d'un seul match de coupe. Mais c'est vrai que vu comment il a été jeté, c'est quand même assez honteux de la part, une fois de plus, de la part des dirigeants et du staff parisien.
On le sait si bien le faire, malheureusement.
Oui, malheureusement, du côté du PSG. Fab, toi, t'avais une autre question, un petit peu, avec un débat un peu plus large, sur les entraîneurs de Nantes.
Oui, donc je voulais demander à El Dante si le départ en tant qu'entraîneur de Reynald de Nouex n'a pas été l'élément déclencheur qui a fait que Nantes a coulé progressivement.
Moi, je suis d'accord.
Reynald de Nouex, oui, ben le dernier entraîneur qui avait les valeurs nantaises dans le sang, ben l'élément déclencheur, non, je pense que l'élément déclencheur, c'est quand la Sud Presse a arraché le club, tout simplement. C'était un actionnaire qui en avait en quelque sorte rien à faire du FCN, hein, et donc il a mis Grippo en place, un incompétent notoire qui avait déjà fait des siennes chez Prost. Et je pense que c'est ça l'élément déclencheur, c'est surtout cette vente qui ensuite a créé le départ de Nedon Wex. Parce que, je tiens à le rappeler, en 10 ans, il y a eu plus d'entraîneurs que depuis la création du club avant 2000. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas parce qu'il y avait une saison où ça n'allait pas à Nantes que Nedon Wex partait. Je pense que l'élément déclencheur, c'est donc le rachat du FC Nantes par la SOC Presse.
Oh, ok, ok. Donc, pour terminer sur le sujet de Nantes, qu'on y a déjà passé une demi-heure, on voit pas le temps passer. Une petite question, comme on demande à chaque fois lors d'une présentation un peu d'un club par un spécialiste qui le suit souvent. Ton coup de cœur cette année, quel joueur en ce début de saison?
Alonso. Voilà.
Alonso, ok. Pour finir, je vais te demander un petit peu ce que tu penses de la suite de la saison, ce que tu espères, je pense évidemment le maintien, mais ce que tu penses, comment ça peut se conditionner du côté de Nantes.
Vu les progrès sur les derniers matchs, je suis assez optimiste sur le maintien, bien sûr. Je pense que si les joueurs gardent cette envie de jouer et cette envie tout court, je pense que la suite de la saison peut bien se dérouler, et puis pourquoi pas avoir un maintien assez tôt pour pouvoir jouer à la Coupe de France.
Voilà. Ok, pourquoi pas, oui, pourquoi pas viser une coupe pour un club comme ça, pourquoi pas une place européenne, on sait jamais, à la fin on voit des surprises qui n'en seraient pas forcément une, parce que Nantes quand même est un club reconnu au niveau Ligue 1, Ligue 2 on va dire, donc pourquoi pas, c'est vrai, un objectif comme ça pour le FC Nantes. Eh ben, on va pouvoir passer au deuxième sujet de la soirée après avoir fait ce débat sur le FC Nantes. Le deuxième sujet qui va donc faire part un petit peu du compte rendu un peu de toute cette journée, des résultats que je vais rappeler des résultats on va dire improbable et assez surprenant façon Ligue 1, un championnat où on ne peut jamais se fier, on va dire, il n'y a jamais de ligne directrice à part avec Lyon, et des poursuivants justement de cette équipe qui n'arrive pas à gagner alors que Lyon a connu un match plus que laborieux et catastrophique autant au niveau du jeu qu'au niveau du terrain. Au niveau des résultats, donc pour rappeler un petit peu tout ça, les matchs de la 16e journée de Ligue 1 donc avaient débuté samedi soir à 19h par la victoire de Monaco 1-0 sur Auxerre. On y reviendra un petit peu avec Leek juste après. Nantes a gagné 2-0 au Havre. Le Mans a gagné 2-0 contre Caen. Lille et Lorient se sont séparés sur le score de 1 partout. Lyon a fait 0-0 contre Valenciennes. Nice n'a pas joué contre Grenoble, le match reporté à cause des conditions climatiques. Sochaux et Bordeaux se sont séparés aussi sur le score nul et vierge de 0-0. Hier, à 5h, jouaient deux matchs. Toulouse et Marseille n'ont pu se départager 0-0. Saint-Etienne allait s'imposer à Nancy 2-1. Ça aussi, ça conditionnera un petit peu notre débat là pendant la prochaine demi-heure. Et enfin, le gros match du soir était le Rennes-PSG. On en parlera avec toi, Adrien. La défaite du PSG 1-0. Au niveau, on va commencer par Monaco. Monaco qui, on va dire, c'est un résultat pas surprenant au niveau des derniers matchs. Monaco qui se reprend bien, mais ça reste quand même pour moi une victoire. Je ne pensais pas qu'on pourrait l'acquérir. On s'était contre une équipe vraiment très très faible de la Auxerre. Mais je ne pensais pas que Monaco pourrait arriver à tenir un score comme ça pendant tout un match. Ils m'ont fait mentir, tant mieux, c'est les 3 points. La manière n'était peut-être pas forcément là à part sur le but, mais c'est le plus important, on va dire, c'est la victoire. Ça emmène Monaco à la 10e place. Dis-moi un petit peu ce que t'en penses de tout ça, de ce qui se passe à Monaco en ce moment, Hugo.
Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de trouver notre équipe type, là. Ricardo, ça va faire 2 matchs qu'il a trouvé sa charnière centrale. Qui est Adriano, qui commence à devenir bon, parce que l'année dernière, à droite, c'était une vraie tanche. Il laissait tout passer, il faisait des offensives qui étaient inoffensives. Et là, il se trouve qu'il ne laisse rien passer. Et avec Dario Simic, qui monte en puissance après chaque match, qui ça commence à devenir très intéressant. Donc je sais pas ce que t'en penses de Simic, Arnaud, vu que
il est au Milan. Bah personnellement, moi c'est toujours un joueur que j'ai apprécié au niveau de sa mentalité. Valet, tu me contrediras pas, à Milan, il a toujours fait son boulot à chaque fois qu'on a eu besoin de lui. Donc
impeccable.
Ouais, voilà,
un c'est un joueur impeccable quoi, un grand professionnel et le peu qu'il jouait, il faisait bien son boulot et c'était il avait pas un rôle facile et moi c'est un des toutes les parties et j'ai regretté quoi parce que des enfin bref, voilà, j'étais en même temps très content pour Monaco quoi, excellente recrue. Très très bon défenseur.
J'avais un tout petit peu peur, et encore vu son professionnalisme, c'est ça qui m'a énormément rassuré, j'avais un petit peu peur que ça fasse comme Klasnić, un peu une retraite dorée, avec Monaco, le climat, le cadre de vie qui est assez intéressant, mais Simic joue vraiment très bien le jeu, il est nickel, la seule petite faute, on va dire, depuis le début de la saison qu'il a fait, je sais pas si tu te rappelles Hugo, c'est le match de Coupe de la Ligue ou Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, où il fait une relance et on se prend un but derrière, on perd 1-0 ce match-là, donc... Il y a que ça où on peut le reprocher, mais réellement sur l'ensemble de ses performances, il tient vraiment bien la maison monégasque derrière. Il a pris le brassard de capitaine. Il est comme je l'avais un petit peu dit, il est vraiment réellement, il a réellement une autorité sur le terrain bénéfique à tous. Et donc ça permet à toute la défense, on va dire, de relever un peu la tête et d'avoir un leader comme ça en sa personne. Et je suis d'accord avec toi comme quoi ça serait vraiment un des éléments déclencheurs de ces bons résultats monégasques. T'aurais une autre analyse un petit peu au niveau par exemple aussi du milieu de terrain, à Alonso qui commence vraiment à trouver des bonnes sensations à Monaco.
Ouais, il n'y a pas qu'Alonso, il y a aussi Gosso Poprivac qui est notre père de récupérateur, qui est vraiment, après chaque match, elle monte de niveau, c'est impressionnant. Surtout le Croate, le Poprivac qui commence à devenir énorme, quoi. Ricardo lui a dit qu'il marque plus de buts parce qu'il avait un pied gauche qui disait magique. Bon, il en a marqué un beau contre Auxerre. Je pense qu'avec ce joueur, on tient bien la baraque. Après Alonso, c'est vrai qu'il fait des grands matchs, surtout contre Le Mans où il avait fait un match énorme. J'avais jamais vu Alonso faire un match comme ça sous nos couleurs. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé de Alonso.
Ben franchement c'est une bonne surprise parce que on m'annonçait comme quoi il était régulier quand il était arrivé du côté de Bordeaux et réellement toi qui as suivi le début de saison monégasque c'était vraiment vraiment catastrophique Alonso hein. Pas une percée, des prises de risque qui ne payaient pas, des frappes hors du cas, enfin c'était vraiment vraiment très 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 mauvais, je vais employer le terme, et ça m'inquiétait. Et là, depuis quelques matchs, il a trouvé effectivement cette régularité dont nous parlait à Bordeaux, et j'en suis vraiment très heureux, et je suis aussi d'accord sur ce point-là avec toi. Fap, un but du côté de la Ligue 2 ?
Eh non, pas de but, juste pour vous signaler la mi-temps sur ce score de 1-0, but de Karaboué, Sedan fait la bonne opération pour le moment.
Ok. Donc, pour finir du côté monégasque, à moins que tu aies une dernière petite chose à dire, bah moi je vais dire pourvu que ça dure du côté de Monaco. On peut, avec cette équipe-là, on peut vraiment s'attendre à tout. On peut s'attendre à des minutes de folie, à une mi-temps de folie comme on a vu en deuxième mi-temps contre Le Mans. On peut s'attendre à vraiment passer complètement à travers, comme on a connu de nombreuses fois depuis le début de la saison. Donc, je suis moins pessimiste, on va dire, je vais pas dire que je suis optimiste, je suis moins pessimiste qu'au début de la saison. Pap, Hugo.
Ouais, bah c'est pour dire sur Licata. Licata, c'est un joueur qui n'est pas techniquement énorme, mais qui donne une envie qui est vraiment assez impressionnante, quoi. Sur le terrain, notamment sur le but de Pokrivac hier, enfin avant-hier plutôt, il se défonce pour lui passer le ballon. C'est un joueur qui mouille le maillot à fond, et on a besoin de joueurs comme ça. Après, il a déjà marqué 3 buts en 4 titularisations, c'est pas mal. Et son entente avec Park, elle est intéressante pour la suite.
Ok. Bon, ben 21h39, on a passé un petit peu de temps sur Monaco. On va passer maintenant à, on va dire, l'autre match qui était assez étonnant au niveau du résultat, c'est Nancy Saint-Étienne, donc qui s'est joué hier, qui s'est vu finir sur le score de 2-1, un but sur coup franc de Machado et un but de Gigliotti. contre un but de Dia pour les Nancéens qui avaient réduit la marque. Première victoire de l'AS Saint-Étienne sous l'air Perrin. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah tout d'abord FAP.
Bah. Oui, donc Saint-Étienne qui confirme un bon retour, j'ai envie de dire, après un bon nul contre Bruges en UEFA. J'ai envie de dire que c'est mérité car l'équipe qui a tenté le plus a gagné. Nancy a été à la, comment dire, à la hauteur de sa saison dernière, c'est-à-dire il est très mauvais devant, très peu offensif. Donc moi j'ai envie de dire félicitations aux Stéphanois qui ont fait un bon match et qui ont été un petit peu aidés par le carton rouge de Brasiliano, mais un bon match des Stéphanois qui, je pense, vont remonter progressivement.
Ouais, bah juste pour, on va dire, je te contredis pour Nancy sur la première partie de saison. Nancy l'année dernière sur la première partie de saison avait vraiment un jeu magnifique. J'étais allé voir certains matchs de Nancy quand je pouvais à Marcel Picot. J'avais vu un match notamment contre Lyon qui s'était vu finir sur un score de 1-0 mais où Nancy en termes de jeu avait vraiment dominé Lyon. Mais c'est vrai qu'après la trêve, après cette Coupe d'Afrique des Nations qui a fait mal à Nancy. Après cette série de matchs nuls, de 10 matchs nuls, il me semble, même plus de 10 matchs nuls du côté nancéen, ça a fini par casser et ce magnifique collectif, comme je disais, c'était un petit peu trop juste pour tenir l'intégralité d'une saison, même sur la durée, encore plus qu'une saison. Ça a cassé et là, c'est en train de se confirmer. Pablo Correa essaye de combler les brèches comme il peut. Il fait un petit peu. Il joue toujours alors avec des matchs qui sont tout proches de la rupture et on voit que ça peut casser à tout moment, même contre une équipe de Saint-Étienne qui n'était pas forcément très inspirée en ce moment. Saint-Étienne quand même qui restait sur un match pas trop mal, on va dire, contre Nice. Ils avaient perdu sur l'unique occasion niçoise, tandis que Saint-Étienne avait touché les montants et Létizier est sorti un match énorme. Donc on va dire que l'effet Perrin, comme on voit si souvent employé, commence peut-être à porter ses fruits du côté des Verts de Saint-Étienne. Valentin sur Saint-Étienne justement.
J'étais sur la même conduite que toi, comme quoi à l'effet Perrin. On ressent tout doucement l'effet Perrin qui arrive à Saint-Étienne. Parce qu'il faut quand même pas oublier que malgré tout ce qu'on a dit l'année passée sur lui, Perrin est quand même un très très bon entraîneur qui donne toujours à son club, peut-être à part à Marseille, mais depuis qu'il est revenu en France, qui donne toujours à son club il fait toujours une bonne saison, il convainc toujours en général les supporters, même si sur le plan du jeu c'est peut-être pas le plus transcendant, le plus alléchant. On avait déjà vu à Sochaux, avec Sochaux qui les amène se faire 7e et en finale de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de France.
Oui, c'est ça.
À Lyon, malgré tout,
il fait ce que aucun entraîneur n'a réussi à faire quand même. Et voilà. Il n'était peut-être pas aimé par Aulas parce que plus médiatique que les autres. Et Aulas a un ego assez fort, pour même trop fort, pour que son entraîneur lui passe devant en termes d'image. Mais faut dire, comme tu le rappelais, qu'il a réussi à ce qu'aucun entraîneur n'a réussi à faire pour l'instant à Lyon.
Et de plus, il est à Sochaux, il fait 7e et Coupe de France. Et on voit les deux années qui suivent, l'année passée et puis cette saison, c'est pas pour dire nul, mais c'est très 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 laborieux et c'est énorme. Si ça en reste ici cette année, c'est redescendre en Ligue 2 très très rapidement. Malheureusement pour le club, l'ancien club de Jean-Claude Tessy, mais c'est irrévocable, tant Sochaux produit un jeu très mauvais, très très mauvais.
Ok, donc pour l'instant, si les Stéphanois continuent comme ça, on pourrait commencer à les enlever de notre, on va dire, quatuor qu'on pensait qu'ils pouvaient descendre, dont on parlait la semaine dernière avec Le Havre, Sochaux, Nantes qui se reprend bien. Donc pour l'instant, ce qui se dessine vraiment du côté Du côté de la Ligue 2, ça serait Le Havre, Sochaux et Valenciennes, si on enlève Saint-Etienne et Nantes, vu leur état de forme du moment. Saint-Etienne qui quand même a réussi à se faire peur par ce but de Dia qu'ils auraient vraiment pu éviter, hein, parce que Nancy était à 10 après l'expulsion de leur gardien Brasigliano, et même dominateur...
Et surtout le penalty loupé de Gomis.
Ouais, voilà, et ce que je voulais dire, dominateur, comme ça, ils ont quand même réussi à se faire peur, donc faut vraiment que Saint-Etienne reprenne de la confiance, mais pour une équipe qui était dans les derniers, c'est quand même bien d'aller s'imposer comme ça à Picot, et donc les Verts mettre fin à cette série de 7 défaites, il me semble, avec cette victoire. Donc pour Saint-Etienne, on va donc finir là-dessus. Au niveau des résultats, c'est assez étrange, on va dire que le Lille-Lorient, même si on va pas revenir dessus, était assez décevant pour les supporters nordistes, parce que Lille, qui est une équipe, on peut le dire, qui peut viser la 5e place, faire le nul à domicile contre Lorient, même si Lorient a battu 3-2 Marseille il y a 2 semaines, je pense vraiment que Lille avait les moyens de gagner ce match-là. Pour passer maintenant au poursuivant de Lyon qui n'arrive pas à gagner, à s'imposer, à part si on compte Rennes réellement poursuivant de Lyon, qui n'arrive pas à s'imposer pour rejoindre Lyon alors que Lyon avait fait un faux pas sur son terrain gorgé d'eau samedi soir. Je vais te lancer déjà, Adrien, pour le PSG, et comment on peut rater une telle occasion de rejoindre Lyon, de recoller à la deuxième place, puis quand on voit des réactions de Sami Traoré qui dit on est toujours sixième, c'est pas si grave, on voit que l'objectif du club du PSG c'est la sixième, cinquième place et pas plus, et c'est vraiment dommage, je trouve.
Ouais, cette année l'objectif n'a jamais été d'atteindre les 5 premières places, même les 3 premières places, on n'a jamais eu cet objectif là. L'objectif du Paris Saint-Germain c'était de se situer vers la 8e, 7e place. Quand on voit les deux dernières saisons galères que le Paris Saint-Germain a passé, on peut se satisfaire de cette 6e place, même si on peut avoir quelques regrets en voyant le match d'hier soir. On est tombé sur un excellent Bouchez, il a été énorme. On pouvait rien faire. On se prend un but assez bête à Landreau qui ne voit pas la balle partir à cause de Daoud Asso qui est donc gêné, et c'est un peu embêtant parce que la fin du match, les 30 dernières minutes, le Paris Saint-Germain a poussé et pouvait obtenir le point du match nul. Mais les Rennais ont été très très solides en défense, et je pense que cette année ça va être une très grosse équipe, parce que on en parle pas assez, mais elle va être très très dure à déloger cette année en tout cas. Voilà. Et puis Le Guen avait gardé la même composition que lors des derniers matchs. On a perdu Cessignon vers la 60e minute. Ça nous a pas trop pénalisé. L'entrée de Kezman a plutôt fait du bien, ce qui est rare pour une fois.
Kezman, il a un peu ton coup de gueule depuis le début de la saison.
Ouais, voilà. Et il nous a fait du bien, même s'il a foiré 2-3 occasions qu'il pouvait tenter. On a vu un Woro complètement différent des autres matchs. Il était complètement à part et on l'a pas reconnu. Sinon on a vu un bon Roten vers la fin du match, qui était replacé au milieu central après la sortie de Jérémy Clément.
Alors Roten, justement, ce gars-là, j'aimerais quand même bien avoir une explication, quoi, parce que il va faire des bons matchs une fois sur le côté gauche dans ce rôle de contrôle centre à la David Beckham, toute proportion gardée bien sûr. Et derrière il va être transparent, mais alors totalement transparent lors d'un match suivant, et on va le replacer dans l'axe, et il va peut-être préférer jouer là. Alors j'aimerais bien savoir à la fin quel est vraiment le poste réel de Roten. Enfin, faudrait peut-être qu'il sache l'endroit où ses performances seront les plus régulières, tu crois pas?
Son poste de prédilection normalement c'est d'être à gauche, normalement, vu sa qualité de centre à un moment qui était parfaite. Mais quand on voit les corners, les coups francs qui tirent et les centres qui étaient pitoyables, c'est le mot. Ses centres étaient pitoyables, son pied gauche n'était pas à la hauteur, tout simplement. Et puis, bah, quand il l'a replacé lors des 30 dernières minutes, 20, 30 dernières minutes, ça a beaucoup mieux joué. Enfin, il a beaucoup mieux joué. Et c'est vrai que c'est bizarre cette attitude à gauche, cette attitude à droite qui est au centre qui n'est pas du tout la même sur le terrain. C'est vrai que c'est étrange. L'année dernière ou il y a deux ans, je ne me souviens plus, on l'avait déjà testé à ce poste-là, il avait plutôt bien marché. Et bah pourquoi pas retenter l'expérience si Jérémy Clément n'est pas à la hauteur ou quoi que ce soit.
Bah, il y a un fantôme, hein, moi, que je trouve vraiment excellent, qui pourrait être l'intérim de Clément.
En parlant de fantôme, juste, c'est vraiment la grosse énigme en ce moment parce qu'il était blessé depuis une semaine et il est revenu à la compétition jeudi. Enfin, il n'était plus blessé depuis jeudi. Il n'a pas été pris pour le groupe de Santander. Paul Le Guen l'avait donc laissé au repos. Et pour ce week-end encore, il ne l'a pas pris et il l'a mis en CFA. Alors que tout va bien, il n'est plus blessé et on se demande pourquoi Paul Le Guen ne le prend pas alors que c'est un joueur de bonne qualité et on commence à pas trop comprendre ce choix de Paul Le Guen de pas le prendre. On n'a aucune explication du côté du Paris Saint-Germain.
Ouais, il y a beaucoup de choix qu'on comprend pas du côté de Paul Le Guen. Une réaction FAP sur le match d'hier Rennes PSG.
Oui, donc c'est une réaction question en fait par rapport à Cessegnon plus particulièrement. Hier, je l'ai trouvé moins bon que d'habitude, moins entreprenant, beaucoup de frappes au-dessus, moins de gris-gris décisif, moins de
beaucoup de déchets.
Beaucoup de déchets et je voulais te demander s'il n'y aurait pas une sorte de Cessegnon dépendance alors que j'en profite pour dire que c'est reparti à Bollard.
C'est pas forcément une Cessegnon dépendance puisque quand il est sorti le Paris Saint-Germain a plus été porté vers l'avant parce que on a fait rentrer Kezman et sa rentrée a fait du bien et je pense pas que ce soit forcément une Cessegnon dépendance. Il a fait beaucoup de fautes dans ses passes.
Ce mec, il a quand ça. Même une qualité de contrôle assez impressionnant. Un peu de déchet derrière, mais il a vraiment un contrôle de balle très intéressant. J'arrive plus à le situer, moi qui au début disais que son poste de prédilection était dans l'axe. Finalement, Le Guen l'a replacé à droite, ça allait bien. Maintenant, on entend dire qu'il pourrait être placé aussi dans le poste de relayeur, comme il a du déchet dans la finition au niveau soit des frappes, soit des passes. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi.
Pour répondre à ta question, Cessegnon avait été placé en relayeur face à Nantes, il me semble, quand Makelele avait été suspendu.
Lors du petit pont magnifique, tu te rappelles, Bastien?
Oui, sur Kessero, malheureusement. Assumez bien.
À droite. C'est vrai qu'à droite, c'est pas du tout son poste de prédilection. Mais il a tendance là encore hier ça pouvait aller, mais c'était face à Lille où il avait joué à droite et il avait tendance à repiquer au centre. Là il a moins repiqué au centre comme face à Lyon, il est bien posté sur son côté droit. Et on voit qu'il a un penchant pour être au centre et à droite c'est pas son poste de prédilection, ça c'est sûr et certain, même s'il peut jouer un peu partout quoi, mais son poste c'est milieu, c'est derrière les deux attaquants quoi.
Ok donc sur Cessegnon on a bien compris. Il y avait une petite question aussi de Bastien, je te fais attendre depuis tout à l'heure, un petit peu sur le PSG et leur motivation.
Oui je me demandais en fait si le PSG choisissait ses matchs. Si par exemple Lyon c'est plus intéressant à jouer ou l'OM que
Bordeaux équipes,
ou Bordeaux voilà, que par exemple jouer Grenoble ou même Nantes où on a vu que le PSG ne jouait pas à fond.
C'est vrai qu'on a l'impression des fois d'une suffisance du PSG lors de certains matchs. T'as raison de le signaler Bastien, c'est assez flagrant et je dirais des mecs comme Cessegnon que pourtant il sera toujours excellent Cessegnon, j'étais allé le voir à Saint-Etienne par exemple, Et ben, il est toujours excellent, mais il aura peut-être un, comme je te dis, une suffisance. Alors, tu seras peut-être pas d'accord avec toi, avec moi, mais il aura peut-être une suffisance lors de matchs comme ça, qui fait qu'il aura peut-être lâché son ballon plus vite si ça avait été contre Lyon ou l'OM ou enfin, je sais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, ouais, non, mais je dirais que le Paris Saint-Germain choisit ses matchs, puisque Rennes est quand même un prétendant à une place européenne cette année. Et donc si on avait choisi nos matchs, alors on aurait fait une bonne partie encore ce soir. Je dirais pas qu'on sélectionne nos matchs, puisque
Paris n'a pas fait réellement une mauvaise partie non plus.
Parce que la deuxième mi-temps était vraiment de bonne qualité des deux côtés. La deuxième mi-temps, on a vraiment poussé et Duchesne n'était pas là. À mon avis, on pouvait en planter un ou deux, à mon avis. Donc je dirais pas que le Paris Saint-Germain choisit ses matchs, mais enfin voilà.
D'accord, d'accord. Donc sur le PSG, on a donc pu dire un petit peu pourquoi il n'avait et comment il n'avait pas pu rejoindre Lyon à cette deuxième place. C'est Rennes qui s'en est chargé à leur place. Rennes donc qui passe premier dauphin de Lyon. On ne les qualifiait pas dans les poursuivants directs parce qu'on qualifiait surtout Lyon, Marseille de ce qualificatif là. Paris aussi peut-être aurait pu être intégré dans ce groupe des trois, mais je ne pensais vraiment pas que Rennes aurait pu prétendre à la Ligue des Champions. Sur ça, est-ce que tu aurais une petite réaction, Bastien ?
Oui, donc sur les Rennais, moi je pense que, comme ça a été dit, Rennes est beaucoup trop sous-estimé, parce que ça fait pas mal d'années qu'ils sont vraiment pas loin de la Ligue des Champions, ils sont dans les cinq premiers. Ils se font chiper la Ligue des Champions il y a deux ans par Toulouse à cause d'un envahissement à la Beaujoire. Ils sont assez réguliers, c'est un club formateur, donc ça mélange expérience et formation, donc c'est un cycle, c'est assez régulier. Moi je pense que Rennes se met petit à petit en place en haut du classement de la Ligue, hein, et que ça pourrait être une future grande équipe de Ligue 1. Hein. Voilà.
Okay, c'est vrai que depuis, il me semble, sur les trois dernières saisons, les quatre dernières saisons, Rennes est dans les cinq meilleures équipes de Ligue 1, il me semble.
Il veut être sixième ou septième il y a deux ans.
D'accord.
Non, ouais. Non, l'année passée, ils ont été.
Oui, enfin, oui, mais on va dire sur l'intégralité de la saison, parce que l'année passée, ils terminent à cette place-là, ou même il y a deux ans, ils se font voler la quatrième place sur le fil. Lors d'un dernier match, donc c'est vrai que c'est assez, c'est assez juste sur les fins de saison, mais sur l'intégralité des saisons, Rennes est assez régulier. Hugo aussi, un petit commentaire sur les Rennais.
Ouais, c'est une équipe qui peut le faire, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse, parce que le championnat est très serré, et ça va faire quand même, je crois le quatrième, deuxième qu'on voit, on a vu Nice, on a vu Bordeaux, Marseille et compagnie. Donc, ils peuvent accrocher l'Europe, mais ça sera très dur pour eux. En plus, l'année prochaine, il y aura des cadres qui vont partir et les remplacer, ça sera dur. Donc, moi, j'y crois pas trop en Rennes.
Ok. Avec une, on peut le dire aussi, une ambiance assez morose, toujours du côté des Rennais. On va finir. Tout d'abord avec toi, Lucia, puis après, je te donnerai la parole, Adrien, sur le cas de Rennes. Vas-y, Elve.
Ok.
De toute façon, par rapport à Rennes, on va quand même pas s'étonner sur leur bon parcours depuis le début de saison. Ça fait quand même, comme tu l'as dit Arnaud, un très bon nombre d'années que Rennes joue, si ce n'est les toutes premières places, les places européennes. Maintenant, est-ce que cette année c'est la bonne? C'est compliqué à dire, parce que il y a une tellement bonne homogénéité entre les 4-5 premiers poursuivants de Lyon qui sont Marseille, Bordeaux, Rennes, peut-être même Toulouse encore cette année. On peut peut-être avec peut-être encore un peu plus en allant chercher encore un peu plus loin peut-être le PSG, voire même Nice. C'est clairement très serré entre les 5 ou 6. Après, il va falloir voir qui parvient à tenir le plus longtemps. Donc Marseille et Bordeaux sont comme chaque année depuis 2-3 ans les favoris pour tenir la cadence. Après, il faudra, Rennes peut très bien aussi tenir assez longtemps et pourquoi pas dans les dernières journées, dans les deux dernières journées passer quatrième, passer troisième ou même deuxième si c'est toujours aussi serré entre les poursuivants de l'OL.
Ok. Donc alors très vite sur le Rennes PSG on a donc conclu. On va parler de Toulouse Marseille, Sochaux Bordeaux, Girondin qui est pas là, on lui fait un petit coucou juste pour dire que Bordeaux n'a pas réellement forcé dans ce match-là et je trouve ça dommage, surtout qu'ils connaissaient le score des Lyonnais comme ils jouaient 2 heures après eux. Johan Gourcuff n'avait pas été aligné d'entrée pour une fois, ça l'a un peu reposé. Et en plus, il avait des problèmes au niveau des ischio-jambiers, il me semble, une surcharge. Un match, on va dire, sensiblement dominé par Bordeaux contre une équipe de Sochaux très regroupée derrière. Ça n'a pas été réellement un beau match et je suis un petit peu déçu par la prestation bordelaise qui n'arrive décidément pas à gagner réellement et proprement dans cette Ligue 1. Bordeaux qui pointe à la cinquième place à égalité de points avec Paris et Toulouse. Donc pour finir avec les poursuivants de Lyon, ça va être Marseille et évidemment ça va être Fab qui va nous reparler un petit peu de ce Toulouse OM qui s'est déroulé hier à 5h.
Oui, donc avant j'annonce but à Bollard et c'est l'égalisation de Kevin Monet-Paquet, donc 1-1. Tout est à refaire et je doute que les Sedanais aient les ressources nécessaires pour reprendre le score loin de chez lui. Donc maintenant, merci Dan. En ce qui concerne l'OM, le match d'hier, on pourrait le qualifier de match de, excusez-moi l'expression, mais de match de merde. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien à part donner de la fatigue aux joueurs. Marcel a quasi rien montré. Toulouse n'a pas fait beaucoup mieux chez eux pourtant. On peut regretter on pourrait considérer qu'il y a une petite faute à la dernière minute sur Koné, mais encore c'est discutable. On parle aussi de faute sur Niang, etc., mais dans l'ensemble on peut dire que le match nul est mérité vu le jeu produit par les deux équipes. Aucune des deux ne mérite vraiment 3 points.
On sent du dépit chez toi, un peu Fab, après ce match-là.
Bon, on est un petit peu habitué maintenant au match pourri.
C'est réellement dommageable pour Marseille, parce que là encore, ils savaient le score de Lyon, et il y avait une réelle occasion de revenir. Je vais peut-être un petit peu reprocher à l'OM de ne pas avoir tout fait pour revenir sur Lyon, et encore ils auraient presque pu perdre le match sur certaines actions.
Oui, mais en même temps ça fait 3 fois de suite que Lyon chie dans la colle et Marseille n'arrive toujours pas à revenir, donc c'est dommage. La première fois ils perdent chez eux, ce match de Lorient, bon, on va pas revenir dessus. Ensuite ils font 2-2 à contre Lille, très péniblement. Et là, on peut pas dire qu'ils étaient tombés non plus sur l'équipe la plus facile à jouer en ce moment. Donc Toulouse, c'est une bonne équipe, mais hier, ils n'ont pas montré grand chose. Et c'est dommage pour Marseille, car ça fait quand même trois fois de suite. Trois journées de suite qu'ils pourraient revenir, ne serait-ce que grappiller quelques points sur Lyon. Et ils ne le font pas. Et je trouve ça dommage, car les points vont être chers en fin de saison et Lyon ne va peut-être pas patauger. Pour faire un petit parallèle avec le match de samedi, Lyon ne va peut-être pas patauger toute la saison et je doute des chances de l'Olympique de Marseille s'ils continuent de vendanger comme ça leurs occasions de revenir. Après, je pense que Guéret en a un petit peu ras-le-bol.
Ouais, ça se voit dans ses conférences de presse, hein, il a l'air dépité.
Surtout que là, même ses joueurs commencent à lui tirer dessus, donc si certains ont vu le match, il s'est pris un ballon. il est mal placé. Donc,
pas facile dire... le métier d'entraîneur.
On a pu lire sur ce dev, je me suis pris dans les couilles. Et je pense que ça va péter un moment ou un autre. Et c'est dommage parce que il y a de quoi faire. Mais l'effectif est trop léger, j'ai envie de dire. En quantité, plus qu'en qualité. L'effectif est trop léger pour pouvoir organiser un tournoi. Donc pour moi, les mauvaises performances qui continuent comme ça sont la faute d'un surplus de matchs des mêmes joueurs.
Ok. Déjà pour TFC OM, Bastien, une petite réaction.
Après avoir parlé avec un Marseillais, j'ai entendu dire que il y avait eu énormément de fautes sur les Marseillais, que l'arbitre avait attendu pas mal de temps avant de mettre un jaune sur Capou, et aussi que Toulouse avait joué la défense. Donc, je n'ai pas vu le match, donc je te pose la question. Et aussi, j'aimerais savoir si tu crois encore au titre et si tu penses que Guéret restera la saison
prochaine. Non. Faut plus croire au titre du côté de Marseille. Je l'avais dit en début de saison que Marseille pouvait abandonner le titre vu comment il perdait des points contre Lorient et tout ça. Bah moi, Fab, je pense que tu pourras me confirmer ce que je dis.
Rien n'est fini. C'est un petit peu notre optimiste Marseille à nous. Un petit peu. Mais...
Il croit au titre pour Monaco, c'est pour ça.
Et alors?
Sincèrement, si ça continue, ça va être très difficile. Néanmoins, on peut s'attendre à un miracle, un geste de la bonne mère qui nous fasse prendre des points quand il faut prendre des points et revenir sur Lyon, mais peut-être les titiller jusqu'au bout. Et ça va être compliqué, mais c'est à voir. Par contre, sur ce que tu disais, les cartons jaunes, les fautes, les joueurs sont tous de petite taille, que ce soit Valbuena, Koné, ils rasent le sol. Donc dès qu'il y a un contact, ils tombent. Et il ne faut pas non plus prendre leur pirouette au salto du fait, j'ai envie de dire, de leur petit physique pour des énormes fautes.
Pour rappel, c'était Bertrand Layec au sifflet à ce match-là.
Bon, on n'est pas tombé sur le meilleur encore une fois, mais non, faut arrêter un petit peu, faut être un petit peu objectif. On peut pas mettre 8 cartons rouges et 12 jaunes sur le match d'hier. Le match a été bien arbitré, et si Marseille avait vraiment voulu jouer, ou s'ils avaient vraiment eu les capacités de jouer à fond, ils auraient peut-être pu faire autre chose. Mais on va pas rejeter la faute sur l'arbitre.
C'est vrai que, comme en plus on se plaint en Ligue 1 de jamais laisser jouer comme en Première Ligue, puisque c'est le championnat un peu idole de la Ligue 1, on va peut-être pas se plaindre lorsqu'il y a des arbitres qui sont un petit peu plus lestes au niveau des contacts. Très vite, deux réactions, Hugo et Valentin sur ce match-là. Hugo, ouais,
c'est pas seulement sur ce match, mais c'est en général. En ce moment, aucune grande équipe n'arrive à enchaîner. Bordeaux ne peut pas gagner contre Sochaux, Marseille contre Lorient, et ce sont les matchs-là qu'il faut gagner, puisque contre Lyon, Paris, Bordeaux et compagnie, ils ont beaucoup plus de mal que des Lorient, que des Lille, ou voilà, quoi. Donc, c'est dommage, et je pense que le titre, il est perdu, pour Marseille.
Ok. 22h08, il est temps maintenant de passer à notre dernier sujet de la soirée. On a retracé un petit peu toute cette journée de Ligue 1 pour vous rappeler juste que la prochaine journée, la 17e, verra les matchs Bordeaux-Valenciennes, Caen-Rennes, Grenoble-Auxerre, Lille-Toulouse, Marseille-Nice, Saint-Étienne, Le Havre et Paris-Le Mans le samedi, et le dimanche, Lorient-Nancy, Monaco-Sochaux et Nantes-Lyon à 21h. Là on va parler un petit peu des émissions, ça va être un sujet un petit peu original, des émissions de foot qu'on peut voir en France. On a donc, comme je l'ai dit au début de l'émission, on a fini avec le calvaire des France de foot le dimanche matin. Maintenant c'est Canal Football Club, les deux principales, et Téléfoot sur TF1. Bah, je vais commencer par exemple avec toi, Adrien, qu'est-ce que t'en penses de ces émissions-là? Et après, tout de suite après, je demanderai à à Billy s'il a quelques comparatifs avec l'Italie, par exemple.
Personnellement, je regarde quelques fois le Canal Football Club, parce que Téléfoot, c'est un peu dépassé pour moi, personnellement. Et apparemment, ils sont inspirés des émissions en Italie en faisant le gros plateau, le public et tout. C'est pas mal comme émission, c'est pas mal. Ça retrace un peu tout ce qui s'est passé dans la semaine. Il y a des bons spécialistes sur le plateau. Ça se regarde facilement, quoi. C'est sympa pour ceux qui sont pas abonnés sur Canal, quoi. Ouais, c'est pas mal. Je regarde quelques semaines, mais je regarderai pas toutes les semaines parce que c'est répétitif, les sujets qu'ils font sur les Benzema, les Paris, l'OM, c'est tout le temps un peu la même chose. Donc à la fin, ça, à force, ça devient un peu relou, quoi. Voilà.
Ok. Déjà avant Billy, un petit comparatif par exemple avec la Suisse et notre ami helvétique Valentin.
Certains me diront peut-être t'es Suisse, tu connais rien, mais franchement, faut savoir qu'en Suisse, surtout en Suisse romande, les émissions, les médias qui traitent de sport et surtout de football sont vraiment quasi inexistants, à part l'émission dominicale le dimanche en début de soirée sur la télévision publique. Sinon c'est tout. Bon, il y a certes quelques matchs qui passent en direct, mais c'est très 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 pauvre en Suisse, les médias traitant de sport. Donc je suis peut-être pas, disons, obligé, mais je m'intéresse beaucoup aux médias français. Et donc ça fait depuis que je suis tout petit que je regardais Téléfoot, et c'est clair. Tu dis souvent t'aimes bien voir tous les buts du week-end, mais après ça devient vite lassant, tous les mêmes sujets chaque week-end. Puis, ce qui concerne le Canal Football Club, c'est certes pas mauvais, mais c'est pas non plus l'émission à pas rater, où on parle vraiment de tout. Pour, selon moi, les meilleures émissions où on peut clairement se faire un avis et écouter, c'est elle se trouve à la radio. On n'a pas grand chose. Je vais peut-être pas énumérer les différentes stations de radio, nos concurrentes désormais. Que je puisse écouter quand la radio soccer n'est pas en ligne, mais c'est clair que pour avoir un peu un avis, un peu des différents avis plutôt que celui de tout le public, faut écouter les différentes radios dans les jeux.
Oh, ok. Ouais. Elvestia. Est-ce que Billy, tu es là?
Oui.
Et est-ce que tu aurais justement un petit peu des éléments de comparaison? Parce que comme l'a dit Adrien au début, que le Canal Football Club a essayé un peu de reprendre les émissions un petit peu type italienne, où il y a une ambiance, c'est un petit peu folklorique, on va dire. Il y a le plateau, il y a des consultants qui se pourrissent, mais qui aiment bien animer, on va dire, le plateau. Donc, ouais. est-ce que
t'as... Ah, ça, les émissions en Italie, c'est de foot, c'est un peu le théâtre, quoi.
Oui.
c'est à l'italienne, des grands gestes. On parle fort, on crie et tout, etc. Alors, ce qui manque encore en France, c'est la bonasse avec deux gros nichons qui reste toute l'émission et qui dit rien, quoi. Ça, je sais pas si ça va venir un de ces quatre, mais ça, en Italie, c'est leur spécialité. Et puis, alors, en Italie, il faut savoir aussi que la moitié de l'émission, on passe notre temps à regarder les ralentis des actions litigieuses, ce qu'on appelle la moviola, ou pas, quoi. Et c'est super relou, d'ailleurs, que c'est insupportable. Moi, je suis pas bien fan, des émissions de calcio en Italie. J'ai pas trop regardé, j'ai vu vite fait le format de la nouvelle émission de Canal, et c'est clair qu'ils sont inspirés de ça avec le public autour, etc. Téléfoot, c'est désuet désormais, on est tous d'accord. C'est fini la grande époque des Vincent Hardy, des Pascal Pro, l'époque dorée, quoi. Je pense que j'aime bien en France, et qu'il n'y a pas en Italie, enfin qu'il y a moins, c'est les émissions de débat comme on refait le match qui passe sur l'équipe TV, et puis 100% foot sur M6. Et même si il y a des consultants qui peuvent être relous, etc. Je trouve que ça se passe dans une bonne ambiance, généralement qu'ils se prennent pas trop au sérieux et qu'on s'emmerde pas en fait devant ces émissions-là. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les autres. Même sans être un fan par exemple de la Ligue 1, j'aime toujours regarder ces émissions-là. Enfin, c'est à peu près les seules d'ailleurs que je regarde quoi. Et je les trouve bien foutues.
C'est vrai que 100% foot, c'est une bonne émission de débat quoi. Ils font pas des reportages comme le font Canal ou Téléfoot. C'est 50 minutes de débat et 10 minutes de reportage et ça rigole. C'est beaucoup plus détendu, je trouve, avec un Menez qui taille partout, quoi, et ça devient plus sympathique, je trouve.
Là-dessus, il y a plusieurs réactions. Bah, déjà, Hugo.
Ah, bah, 100% foot, c'est une émission que j'aime bien parce que, ouais, les débats, notamment avec le gros Pierre Menez qui, t'as raison, il taille tout le monde, dès qu'il peut tailler, il se lâche. Et sinon, il y a les spécialistes qui sont beaucoup plus calmes, ou je dirais qu'ils sont beaucoup plus coincés, puisqu'ils peuvent pas se permettre, surtout que ce sont des entraîneurs, pour la plupart, au chômage, donc ils peuvent pas se permettre de mal parler. Et sinon, bah, pour revoir les buts, et ben, rien de tel qu'un bon petit 11 d'Europe l'équipe du dimanche.
Ok, toi tu préfères ça. Juste, je vais citer un petit peu sur ce thème-là une réaction de GG Igno qui nous disait un petit peu sur Téléfoot ses impressions. Il trouvait, bah, comme c'est revenu souvent là dans ce qu'on a dit, qu'on voyait les mêmes reportages. Et là, je le rejoins entièrement, c'est que pour Téléfoot, la première ligue est le championnat magique. Il nous le présente avec des effets Star Wars, comme il qualifiera. On voit effectivement un engouement autour de la première ligue assez incompréhensible, je dois dire. Pour moi j'ai essayé un petit peu la première ligue durant les derniers week-ends, j'ai vraiment pas été convaincu. Lyon, les reportages aussi banals des poursuivants de Lyon et les reportages aussi comparaison Messi Cristiano Ronaldo, il en a un petit peu marre. Donc voilà, c'était un petit peu sa réaction. Moi, juste pour dire que j'aimerais bien un mec comme Riolo qui fasse un petit peu plus souvent des interventions sur des plateaux de télévision, parce que ce mec-là est un petit peu dans la lignée des Pierre Ménès, bien qu'il soit différent à la télévision qu'à la radio dans son émission. Donc justement pour un petit peu sur tout ce débat-là, Fab, t'aurais une petite réaction.
Oui, donc c'est pour revenir un petit peu. Je pense qu'on a oublié les spécialistes sur Canal+ ou.
C'est nous les spécialistes.
Oui, mais les spécialistes bis, ceux qui nous ont copiés, qui ont une grosse équipe et qui se débrouillent vraiment, vraiment bien sur Canal. Après, je pense que 100% foot, ils perdent un petit peu d'audimat vu leur avancée à laquelle ils diffusent. Je pense que ça serait plus rigoureux, plus judicieux de leur part de faire ça un petit peu plus tôt dans la soirée, ou voire un samedi soir, où des gens...
Il y a plus Estelle Denis, c'est pour ça.
Oui, et puis voilà, ils perdent beaucoup, beaucoup dans le départ de Valentin Domenech, pour moi.
Non, mais c'est vraiment plus sérieusement.
Ouais, non, mais je le disais sérieusement.
Ouais, non, je pensais que c'était peut-être ironique, quoi, mais voilà, c'est clair que... Elle faisait son boulot correctement, et puis voilà, elle se prenait pas la tête aussi, quoi, ouais. Et ça ajoute un plus.
Niveau esthétique, ils perdent, parce qu'entre Pierre Ménès, Thierry Roland et Estelle Denis...
Ça relevait un peu le niveau.
Chacun ses goûts, Fab, hein. Il en faut pour tous.
Ouais, mais bon. On va pas s'étendre.
une réaction aussi avant de te prendre Billy, une réaction d'Helvetia sur une autre émission, lui c'est On refait le match.
Ouais, sur la Kate TV avec donc Jeanne Pano, c'est cette émission j'écoute souvent parce que déjà on a du débat, c'est quand même assez sérieux contrairement à 100% foot, mais ce qui est surtout intéressant là, c'est qu'on a on a souvent 5 ou 6 journalistes qui viennent tous de médias différents qui peuvent apporter un avis complètement aléatoire par rapport à la au sujet en cours, chaque journaliste a son avis sur le sujet. C'est souvent très intéressant puisque la plupart des journalistes sont tous les week-ends au bord des terrains de Ligue 1 et peut-être un petit peu trop dans l'intimité des joueurs, mais on peut avoir des avis complètement différents qui viennent de différents médias. C'est ce qui peut être très très intéressant à écouter parfois.
Oh, ok, vas-y Billy.
En fait, juste pour revenir, si on refait le match, il y a c'est une émission que j'aime bien, quoi. Mais la Francesca qui de la Starac a un peu rien à voir en fait, quoi. Enfin bref, ça, je trouvais ça dommage, même si elle dit pas trop de conneries, c'est pas Sophie Talman, quoi, mais bon. Je pense qu'il y a mieux. Et les c'est plus ce que c'était quand même, quoi. Enfin, je sais pas, moi je regarde plus trop d'une parce que maintenant il faut voir plus que les buts des gros matchs, quoi, en fait. Et avant, je m'en rappelle, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, on voyait tous les buts des grands championnats, même Valladolid, Mallorca et tout. Enfin bref, c'était l'intérêt de l'émission. Et puis au niveau des consultants, quoi, l'italienne, je la trouve insupportable personnellement. Avant, c'était Lorenzo Fanfani qui était impeccable.
Ouais, elle était bien, pas sans l'autre, avec sa voix cassée, ouais. Je ne peux
pas. Voilà, on a envie de lui mettre des tartes, en fait, quoi.
À longueur de temps.
Moi, je trouve que c'est vraiment plus que, par rapport à avant, je trouve qu'il y a 4-5 années, c'était quand même beaucoup, quoi.
À mon avis, le départ de Hervé Matou, ou à l'ancienne ouais. Avec Thierry Gilardi, ça a complètement changé, je pense.
Un petit but du côté de Bollard, Fab.
Oui, laissez-moi 2 minutes, je prépare ça. J'arrive.
Il y avait Hugo, là, qui voulait intervenir.
Ouais, c'était sur 100% foot, c'était la minute de Monsieur Thierry Roland. Je sais pas qu'est-ce que j'en pensais, mais moi ça me fait bien rire avec les effets spéciaux quand il bouge la caméra et tout. Et quand il fait ses petites analyses importantes, comme l'autre coup, c'était avec Maradona, ou je sais pas, il disait que ça allait pas marcher parce que Maradona, c'est un camé et tout. Mais moi ça me fait bien marrer de voir encore Thierry Roland à 100% foot. Je pense que c'est le bouche-trou de cette émission, quoi. Et la minute de ce Thierry Roland,
c'est... Il faut lui laisser une place, parce que Thierry Roland, c'est le monsieur emblématique de la télévision française et du football français depuis 35 ans. Et on peut pas le saccader comme ça, d'un jour à l'autre. C'est simplement ça, à mon avis.
Comme la main, un peu comme l'arqué, si on le vire de TF1, je dis pas le bruit que ça fera à TF1,
Ah, lui, il est insupportable. Par contre, je le trouve de plus en plus insupportable et aigri avec
Ah oui, il est insupportable. C'est vraiment horrible.
Ouais, ouais, et une pipe, c'est la pipe. Mais
pour revenir à Thierry Roland, ouais, c'est clair que c'est un peu par charité, quoi, qu'il est encore là, quoi. Mais bon, je trouve que son côté bof et tout, voilà, ça fait toujours marrer. Pareil, il se prend plus au sérieux maintenant et tout, c'est le mec sympathique, quoi.
Ouais. On a surtout l'image de lui qui a insulté l'arbitre et ça a aidé beaucoup à son image.
Monsieur l'arbitre, vous êtes un salaud.
Voilà.
Celle-là, ça me connaît pas le dire, monsieur l'arbitre, vous êtes un salaud.
Et ça, c'est sur un terrain de football.
Je pense qu'il y a certaines chaînes l'ont pris, ils ont peut-être apprécié, ils ont vu que ça plaisait un petit peu ce côté un peu provocateur ou ce côté un petit peu où ils pouvaient se lâcher, comme tu disais, ce côté un petit peu beauf comme ça, que ça fait rire tout le monde. Il va sortir une ou deux vannes par là, donc on peut dire que c'est un petit peu, on va pas le qualifier comme guignol de l'équipe, mais c'est un peu le mec qui va t'égayer une émission en te sortant un peu un truc pourri comme ça pendant le temps de l'émission. On va finir avec toi Bastien parce qu'il nous reste une dernière rubrique à aborder après avec Adrien et pour conclure tout ça aux alentours de 22h30. C'était surtout sur TF1 et Téléfoot, toi, que tu voulais réagir, Bastien.
Oui, c'est surtout Christian Jean-Pierre qui me dérange. Ce mec, je sais pas ce qu'il fait à présenter ou même à commenter du football, et il n'y connaît rien. Il s'inspire de ce que dit l'Arqué en fait sur les matchs. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais bon.
Ou Wenger.
Voilà. Il s'inspire de ce que disent les autres. On dirait qu'il s'y connaît rien. Même Gilardi était mieux à l'époque. Enfin, voilà.
Ok. Donc Fap, ce coup-ci, peux-tu nous confirmer qu'il y a bien un but à Bollard?
je confirme un but. Et là, je vais demander à Dan le double jingle. Et c'est le but de d'Alexis Allard pour nos petits Sedanais. Nos petits Sedanais qui vont gagner.
Encore un coup de laser, Dan, un petit coup.
Allez, un petit coup.
Voilà.
Voilà. Ça, c'est pour le plat du pied d'Allard. Voilà, Allard qui est sorti par la suite. Sedan qui reprend l'avantage, il reste 10 minutes et comparé à ce que tout le monde nous dit, ce n'est pas un hold-up, c'est juste le talent.
Ça y est, écoute-le.
On est en train de faire un très gros coup. Allez, je vous retrouve pour la fin du match.
Ok. On va pouvoir donc finir avec notre nouvelle rubrique qu'on fait déjà depuis une semaine avec toi Adrien, la rubrique qui s'intitule en direct de la Ligue 1, les dernières news actu de tous les clubs comme ça, ce qui s'est passé de plus important après ce week-end de championnat, blessures, suspensions.
Voilà. Donc du côté de Monaco, voilà, bon pour faire plaisir à Arnaud et à Hugo. Donc dans les colonnes de Nice matin, le président Cohen a démenti être proche d'un transfert de Kamel Meriem parce qu'il avait été interrogé sur la possible venue de Meriem cet hiver. Mais Maurice Cohen a indiqué à nos confrères de Nice matin que ce n'était pas d'actualité.
Et merde.
Non, on le donne au Niçois. C'est un joueur, c'est une temple.
Ouais, voilà. Vas-y, continue.
Tout le monde sait que le président du Mans avait voulu faire plaisir à Lyon et au Paris Saint-Germain pour qu'ils récupèrent mieux après leur match de Coupe d'Europe de ce mardi mercredi. Et ben c'est raté. La commission d'organisation des compétitions a refusé d'avancer le match de Lyon et de Nantes, mais en revanche il l'a fait pour le match de Bordeaux à Valenciennes qui se disputera le vendredi à 21h et donc l'OL bien sûr qui n'est pas content, je dirais plutôt Olas, vient de faire appel à la décision. Voilà. Du côté de Nancy, donc on sait qu'au mois d'août Jean Calvé est arrivé pour le possible départ de Chrétien, mais qui finalement n'est pas parti. Et donc cet hiver, si le président de Nancy, Jacques Rousselot, reçoit quelques propositions, Jean Calvé dispose d'un bon de sortie. Donc quelques clubs pourraient être intéressés par ce joueur. Et du côté de Marseille, donc on sait que Servette Sétine était dans les petits papiers d'Eric Guéret et de José Anigo. Donc pour l'instant, ils sont toujours sur cette piste. Ils sont pas encore passés à la phase concrète des opérations, mais son profil commencerait sérieusement à se dégager.
Justement, là-dessus, sur le recrutement marseillais, Fab, je vais te demander, qu'est-ce que cherche réellement l'OM pour ce mercato? Je sais plus, alors apparemment ils nous disent qu'ils veulent un finisseur pour suppléer Niang, après ils veulent un défenseur, c'est soit Rami, soit Servette Sétin. Donc est-ce que tu aurais un petit peu plus d'infos là-dessus?
Oui, donc de ce que m'a dit Fab Diouf hier, il rechercherait un attaquant, un tueur et un défenseur central.
Alexander Frey.
Non, on a dit un tueur.
Quoi Alexandre Frey? 46 buts en 100 matchs de Ligue 1, mais tu veux quoi de plus?
Un tueur?
Ouais, dis-moi ce qu'il
fait. C'est quoi, Alexandre Frey, c'est un tueur, non? C'est un buteur, c'est tout ce qui...
De pigeon, peut-être.
C'est une lenteur.
Ouais. Ok, donc...
Il est trop bon pour jouer à Marc.
Tu veux qui? Ouais, voilà,
je sais pas. Moi, sincèrement, je voudrais le retour de Cissé, mais ça sera pas possible. Donc,
moins d'efficacité par excellence. Ah, vous voulez pas animer devant aussi avec lui, parce que vous
pourrez. Ouais, mais si c'est en confiance pour la Ligue 1, c'est largement suffisant, moi je pense.
Comme actuellement, que Sunderland, oui, il marque pas mal quand même. Hein.
Voilà.
Ouais, je suis pas convaincu. Moi, j'ai jamais vraiment aimé le joueur. Donc.
Non, mais il faut savoir qu'il y a une saison, il a mis 26 buts en Ligue 1, quoi. Donc,
oui, il y a pas, une saison, c'était avec Auxerre.
Ouais, mais c'était pas par enchantement, quoi.
Depuis, il a eu deux fois la blessure sur son genou, donc... Enfin, moi, je suis... je suis vraiment vraiment sceptique sur ce joueur et j'aurais vraiment du mal à admettre que qu'il pourra revenir à un niveau qu'on lui a connu. Fap.
Il a quand même mis 16 buts l'année dernière.
Ah mais attends, mais le nombre, je veux pas, enfin, ça, on part dans un débat sans fin, mais le nombre d'actions qu'il avait, les occasions, les Nasri Valbuena, ça lui servait sur un plateau, franchement. Enfin, je trouvais, moi, que heureusement qu'il a mis 16 buts la saison dernière, hein, il a jamais mis de... Il a très peu mis de buts exceptionnels avec l'OM. Hein. C'était surtout des buts de finisseurs et d'attaquants. Et quand on voit le nombre d'occasions qu'il avait à côté, moi je suis vraiment épaté par l'efficacité de ce joueur. Mais bon.
Et c'est son petit côté Bakayoko, bon bah voilà, qui fait qu'on s'attache à Djibril Cissé.
Ouais. Hugo.
Ah mais si c'est, t'avais une demi-saison, il était pas en confiance, après il a commencé à devenir. Donc ouais, 16 buts, c'est pas mal du tout, quoi. Surtout pour un joueur qui était pas en confiance. Et surtout que pendant la préparation d'avant-saison, il avait marqué à tous ses matchs, notamment je crois un quadruplé comme ça, non?
Ouais bah ça devait être ça. Vous êtes plus Savidan ou Fry?
Savidan, ça va pas être possible, je pense. Fry. Bah,
Fry, oui, 10 millions. Il suffit d'aligner 10 millions.
Oh oui, bah, 10 millions pour Fry.
Bah, Bastien, il serait du côté d'Alvesia, non?
Moi, toi, t'as mal, t'as encore le dans le travers de la gorge, les 4 buts mis à Barthez en 2004.
Non, même pas, mais pour moi, il est un petit peu cramé maintenant, Fry, donc, on va attendre, on verra.
Ah, il a été blessé pas mal ces derniers temps, mais si tu le fais jouer, je suis persuadé qu'il peut marquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Bah, okay. Là, il joue pas beaucoup à Borussia, mais il peut marquer des buts. Il peut vraiment marquer.
Oh, ok. Bastien, juste pour confirmer un petit peu ce que disait Valentin.
Oui, moi je suis d'accord avec Alvesia. Hein. Fry, c'est le finisseur. Il a pas besoin de deux occasions pour marquer un but. Hein. Je me souviens à Rennes, c'était le buteur de la Ligue 1. Ça c'est sûr.
Non, il y avait pas. Voilà.
Oui, bien sûr. Mais Fry, c'est quelqu'un qui m'a marqué quand même. Donc je pense que s'il allait à Marseille, ça ferait énormément de bien à l'OM. Surtout avec les joueurs qu'il aurait autour quand même.
Ok. Bon bah on va finir avec toi Adrien pour les deux trois petites actus qui restent.
Ouais bref pour finir l'OM aussi serait intéressé par Adil Rami, le Niçois Apam et l'Américain Oniu, désolé pour la prononciation. Et toujours pour rester pour Nice, le derby du sud entre l'Olympique de Marseille et le GC Nice pourrait se jouer sans les supporters des Aiglons. Donc c'est la préfecture des Bouches-du-Rhône qui voudrait interdire leur déplacement en train des 800 spectateurs niçois attendus. Ça me fait penser un peu à l'histoire de PSG Marseille quand il y avait les supporters marseillais qui n'avaient pas été acceptés par Blaio à l'époque. Enfin bref.
Ok, voilà. Ok, c'est tout pour l'actu.
C'est tout.
Ok, bah merci bien. Toujours une petite rubrique qui nous informe en plus là, vu que le mercato approche, on commence à avoir les premières rumeurs. On va pouvoir clore cette émission avec un dernier but. Fab, pour toi, tu vas pouvoir extérioriser ta joie. Ah, on l'attendait.
Donc c'était un but de Damien Tibéri, 3-1 pour
Jean Tibéri.
Oui, Jean Tibéri.
Soixante ans, toujours là.
La grosse recrue du mercato, Jean Tibéri. qui ouais. En est déjà à 3 buts cette saison.
Paris-Sedan, il a fait bientôt.
Donc, en vérité, c'est Damien Tibéri, pur produit du centre de formation.
Le fils de Jean Tibéri?
Oui, le fils caché.
Ok. Donc, tu vas nous confirmer, la victoire est acquise là maintenant pour les Sedanaires.
Le match est terminé, la victoire est acquise et ça rappelle bizarrement le scénario qu'il y avait eu en Coupe de la Ligue où Sedan, après avoir mené 1-0, a perdu 4-1. Et là, ça s'est un petit peu
inversé.
Ça s'est un petit peu inversé. Donc, en plus en championnat, donc ce qu'il donne, si j'ai le temps, au classement, Boulogne premier, Lens reste deuxième, Et en ce qui concerne Sedan, il remonte à la 14e place avec le même nombre de points que le 11e. Donc très très bonne performance des Sedanais, qu'on avait rarement vu à un tel niveau à l'extérieur.
Lance qui me fait penser à Marseille. Ils ont tout le temps une bonne occasion de revenir, en fait ça marche jamais.
Ok. Bon bah les gars, on va pouvoir clore là-dessus, ce qui a ravi notre pur sanglier FAP. Donc je remercie tout le monde qui était là pour m'accompagner ce soir. Adrien, Dano, Manette, Bastien pour sa première très bien réussie, FAP, Hugo, Billy pour parler d'un championnat qu'il ne connaissait pas excessivement bien, mais il a tenu sa place de Laurent Baffy, comme il s'est dit. Et Valentin était avec nous ce soir.
4 à 1. C'était un dédicace pour ça, ouais.
Voilà. On va pouvoir clore l'émission. Et je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Au revoir. Ha ha!